Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui pour la saison 3, on accueille Justine.
Salut.
Salut Justine, ça va?
Ça va et toi?
Bah écoute, super, content pour une fois, je ne me déplace pas. On a fait un petit studio sur la table de la salle à manger et c'est Justine qui est venue.
Tu joues à domicile?
C'est ça, je suis à domicile. On est venu dans le studio Pignous. Bon, trop bien. Justine, qui es-tu? Peux-tu nous raconter un peu, d'abord, qui t'es dans un premier temps?
Ouais, Justine, 29 ans, je viens du sud-ouest. Je suis cuisinière aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ou plutôt aussi, remarque. Il y a quelques années, j'étais en fac de droit et d'histoire de l'art. Je préparais le concours de commissaire-priseur jusqu'à ce que je prenne une grande claque par la vie et que je doive tout remettre en question, remettre toute ma vie et tout mon parcours en question et composer avec quelque chose que j'avais jamais envisagé et me réinventer. Donc, je rentre un peu plus dans les détails ou...
On va y rentrer. Je pense que là, tu as bien teasé déjà. J'aime bien aimer, tu as pris une grosse claque. On va y venir. Juste avant de parler de cette claque qui est, oui, clairement monumentale, je pense que ceux qui nous écoutent ne se rendent pas compte de la suite de l'interview qui va être absolument ouf. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision, ta définition de l'échec?
L'échec, justement, pour moi, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Il y a des coups durs, il y a des choses qui sont inattendues, des choses qui sont violentes, agressives, mais l'échec, ça voudrait dire ne pas s'en relever, ne pas apprendre de cette situation-là. Et je pense que tout le monde est capable d'avancer et d'évoluer, peu importe ce qui lui arrive, en fait. Et je le rattache un peu à la notion de bonheur ou de tristesse ou de dépression, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça, et certaines personnes, des bourgeoises du 16e, vont être hyper touchées alors qu'elles ont tout pour réussir, et d'autres vont enchaîner les coups durs, connaître que des galères dans toute leur vie, et pourtant, ils vont garder la tête haute et s'en servir pour avancer. Donc, c'est juste une question d'état d'esprit, et l'échec, c'est ça, c'est une façon d'appréhender la vie et les coups durs.
Magnifique. Validé, très fort ce que tu dis, entièrement d'accord. Ce que tu vas nous dire du coup aujourd'hui, on va rentrer dans le vif tout de suite, t'as bien teasé juste avant. Moi je vais contextualiser, mais tu vas plus nous donner de contexte encore sur comment ça s'est passé bien sûr. En gros, aujourd'hui ça fait donc un peu plus de 6 mois, ça, 7 mois, que tu es sorti donc de 3 ans de prison.
Ouais, 3 ans et demi à Fleury.
3 ans et demi à Fleury. Et écoute, je vais te donner la parole tout de suite, tu vas pouvoir nous raconter un peu comment c'est arrivé, et puis après on va essayer de plus comprendre même l'introspection que tu as pu avoir pendant ces 3 ans et demi, et donc tout ce que tu as pu ressortir, parce que ça se voit qu'il y a beaucoup de choses énormément positives qui en ressortent.
Yes. comment ça s'est passé? J'avais 25 ans, ça faisait déjà, j'étais en master de droit, donc ça faisait déjà quand même un petit moment que j'avais quitté le cocon familial, mais... Maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'étais pas forcément heureuse dans ma vie d'avant. J'étais vraiment une gamine inconséquente et je validais mes années de fac sans m'investir personnellement. Donc c'était juste un accident, un neuro-accident. Mais je validais, mais sans but. J'avais l'impression de stagner dans ma vie. Et, je faisais la fête tout le temps, je dépensais l'argent de mes parents. J'étais à 25 ans, normalement, j'aurais dû être un petit peu plus mature que ça et réaliser la chance que j'avais et essayer de m'accomplir, mais... Pour le coup, c'était pas le cas. Il y a eu ce jour fatidique dans la nuit du 23 au 24 décembre 2017. Donc, pas le jour qui est censé être fait pour ça dans l'année, quoi. Clairement, on était à une soirée avec quelques potes. On était assis en after après être allé dans un bar et c'était une soirée comme toutes les autres. J'avais ramené de la cocaïne, de la MDMA. Vraiment, c'était comme ça qu'on s'amusait. Et on banalisait complètement la consommation de ces produits-là. Et au bout d'un moment, assez tard, 4h, 5h, je ne sais pas, je me rends compte qu'il y a une des filles présentes qu'on n'arrive pas à réveiller. Et là, je panique, j'essaie de trouver son pouls, je n'y arrive pas. J'appelle les pompiers, elle me demande de faire un massage cardiaque. J'ai l'impression que ça dure une éternité. le temps que ça arrive. En fait, c'est juste 20 minutes, mais je me dis que ça va forcément aller parce que j'envisage pas une autre issue à ce moment-là. Les pompiers arrivent, on entend le défibrillateur, ça dure aussi une éternité. Là, je suis mal, je passe mon temps à vomir. Je suis dans la salle de bain, j'attends juste des nouvelles positives et je me rends pas compte de ce qui est en train de m'arriver vraiment. Ensuite, c'est la police qui prend le relais. Et moi, clairement, je dis que c'est moi qui ai apporté le produit parce que je vois pas ce qu'il y a de mal. Enfin, j'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit et je vois pas pourquoi j'irais occulter ce qui s'est passé. Donc oui, non, j'assume clairement d'avoir été celle qui a amené les produits là. Et à partir de ce moment-là, je vais en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Les flics sont plutôt sympas. Je pense aussi qu'ils voient que je ne suis pas quelqu'un de méchant ou autre, que j'essaie de comprendre aussi ce qui m'arrive un peu, mais ouais, ils sont plutôt sympas avec moi. Ouais. là-dessus, après la garde à vue, après 2 jours de garde à vue, on me laisse sortir en contrôle judiciaire. Et là, je me dis que je vais retourner à la fac, normalement. Mais le procureur fait appel. Donc, je dois passer en audience pour déterminer si je vais être incarcéré ou pas. Mais encore une fois, là, je parle avec mon avocate et on est convaincu que c'est juste une formalité et que je vais rester en placement en contrôle judiciaire. Donc, que je vais juste avoir quelques petites obligations à respecter, mais que ma vie va pouvoir continuer sans trop de problèmes, quoi. Mais c'est là où on s'est planté un peu. Mais enfin, c'est aussi ce qui prouve à quel point j'étais à milieu d'envisager les risques que je prenais avant et après ce qui pouvait m'arriver, en fait, les implications que ça pouvait avoir pour moi. Parce que moi, à partir du moment au moment où cette fille était décédée pendant que je lui faisais un massage cardiaque, je savais déjà que ma vie, j'allais pas la continuer de la même manière. Enfin, c'était absolument fou. Enfin, pour moi, on voulait juste faire la fête. Et finalement, quelqu'un avait perdu la vie. C'était incroyable. Enfin, j'ai eu du mal à réaliser, mais en même temps, ouais, je savais que ça pouvait plus durer, quoi. Je sais pas trop. Bref. Toujours est-il que je vais à cette audience avec mon petit cartable pour aller en cours après et avec une petite valise aussi dans l'hypothèse où je termine en détention le soir même. Et là, ouais, comment on prépare une valise quand on sait pas, quand on sait pas à quoi ça ressemble la prison? J'avais mis, ouais, quelques fringues, un peu des livres, des affaires de toilette. Il se trouve que la plupart des vêtements que j'avais apportés étaient interdits en détention, donc on n'a pas le droit, ouais, au bleu marine, au kaki, aux vêtements à capuche. Tout ça, j'en savais rien, donc ouais. J'étais vraiment un petit peu naïve. Mais c'est ça, en fait. J'ai été naïve tout le long du truc.
Mais en même temps, ton avocate, comme tu dis, elle te rassurait, toi, à ce moment-là.
Ouais,
elle te rassurait, elle te disait que ça allait aller.
Ouais, que j'avais pas de raison d'aller en détention. Parce qu'en France, normalement, la détention provisoire, c'est censé être l'exception. On va en prison que s'il y a des risques de fuite à l'étranger, récidive. Mais à partir du moment où on a un emploi, un logement, on est toujours considéré comme innocent, donc on peut attendre son procès à l'extérieur, normalement.
Et elle t'a expliqué comment ça se fait que le juge a donné cette sanction. L'avocate, elle se l'explique aujourd'hui, parce que pour vous deux, du coup, c'était censé bien se passer.
Ouais.
Enfin, bien se passer, oui.
Ça a été une affaire assez compliquée. L'avocat des parties civiles a plaidé une requalification des faits en criminel. Et le procureur l'a suivi là-dessus, donc ouais, je sais pas. Je sais pas exactement, mais ça a été... J'ai vraiment pas eu énormément de chance dans toute la procédure judiciaire. Après, je remets pas en question le fait d'avoir été incarcéré et le fait d'avoir été puni, mais c'est vrai que tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné en général. Mmh. Bon. Sinon, je serais pas là aujourd'hui, remarque.
Ouais. Mais donc, du coup, alors attends, là, on repart. Donc, ça y est, donc là, tu es rentré avec ta petite valise. Au final, tu te fais prendre la plupart de tes affaires, parce que ce que tu as pris, ça correspond pas.
C'est ça.
C'est quoi, du coup, enfin, c'est peut-être dur ce que je pose comme question. Tu me dis si tu peux répondre, mais tu penses à quoi, là, la, la première nuit quand il y est, genre là, quand tu te dis putain, en fait, là, je suis parti pour. Donc, c'était 3 ans la sentence, elle était actée, 3 ans et demi.
Non. Initialement, je devais partir pour 4 mois. Après, d'accord. Au bout d'un mois, ça a été changé en 1 an. Et après, on m'a rajouté par tranche de 6 mois à chaque fois. Donc, putain. Au bout de 6 mois, à chaque fois, je pensais que j'allais pouvoir sortir. Je devais passer devant le JLD. En 2018, d'ailleurs, au bout de un an de prison, le juge des libertés et de la détention n'a pas renouvelé mon mandat. Donc, je devais être libéré une semaine après. Et au début, je me suis dit non, le procureur va faire appel parce que procureur contre moi, représentant de l'État. Et les jours passent. Et là, je me dis bon, y a rien, il n'y avait aucune nouvelle. Donc, je vais peut-être commencer à pouvoir préparer ma sortie. J'appelle des potes, on voit pour louer une voiture pour venir me chercher. Et en fait, la veille, à 16h, on m'appelle au bureau de gestion de la détention et on me dit que ouais, le procureur a fait appel. Donc le lendemain, au lieu d'être libéré, en fait, je retourne au palais devant la cour d'appel. Et la cour d'appel qui m'a rajouté 6 mois et finalement, je suis resté 2 ans supplémentaires en prison.
Putain, donc attends, enfin, c'est horrible ce truc-là. Donc en gros, on te fait croire petit à petit que tous les 4 à 6 mois, tu peux sortir et à chaque fois, on t'en remet encore plus.
Ouais, enfin, c'est pas qu'on me fait croire, c'est qu'on me dit qu'il y aura une audience qui déterminera si je peux rester ou pas. Mais après, okay. Évidemment, on a envie d'espérer.
Bien sûr.
Donc, tout le monde y croit. C'est ça, quand on est en détention provisoire, on n'a pas de date de sortie fixe. Donc, il y a beaucoup de filles que j'ai pu croiser qui faisaient des demandes de mise en liberté toutes les 2 semaines et qui à chaque fois avaient tellement d'espoir de sortir, mais voilà, en fait, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, il faut réussir à tout faire pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir à sortir, sans perdre de vue qu'en définitive c'est pas nous qui décidons, quoi. Donc on n'a plus le contrôle sur le cours de notre destinée à ce moment là
Ok. Et du coup, j'imagine que c'est beaucoup de... Enfin, tu penses à quoi, en fait, justement, quand t'as, au bout de 4 ou 6 mois, on te dit, bon, bah non, en fait, on refera... Il y aura un recours peut-être que dans 6 mois. Comment tu prends ça à chaque fois?
En fait... déjà, ce coup-là, là, où je pensais que j'allais sortir et où finalement, je suis restée, à partir de là, je me suis clairement dit, voilà, il faut que tu te conditionnes à chaque étape pour te dire que, dans tous les cas, ça passera pas. Donc... tu fais le possible, c'est cette espèce de contradiction, d'ambivalence entre le fait de s'investir et en même temps essayer de se réfréner. Et depuis ce jour-là, ça a toujours été, j'ai toujours perçu les choses comme ça parce que je préfère me dire, ok, mieux vaut une bonne surprise plutôt qu'une déception. Donc en me disant que ça allait pas passer, je me garantissais de pas tomber de haut, en fait.
Et ça, c'était genre 1 an et demi après, c'est ça que t'es...
Ça, c'était, ouais, 1 an et demi, ouais.
1 an et demi après que t'es été incarcéré.
Ouais.
Donc, en gros, donc c'est ça, t'as fait 3 ans et demi, et à partir d'un an et demi, tu t'es dit, ok, maintenant, j'ai compris.
C'est ça.
Si, comme tu viens de dire, t'as travaillé la phrase, si c'est une belle surprise, tant mieux, mais au moins que maintenant, je serais plus déçu.
Voilà.
Donc, ça a été vraiment cet élément déclencheur-là, en fait, cette fois de trop près, j'ai envie de dire, ou à 24 heures près, tu pensais que c'était bon. Et...
C'est ça, quand tu te vois dehors et que finalement, ouais, non. Après, même quand, une fois que j'ai été condamné à arriver à la fin de ma peine, c'est pareil, on commence de plus en plus à pouvoir se projeter à l'extérieur parce qu'il y a les demandes d'aménagement et compagnie. Et là, j'ai eu vraiment du mal à contenir un peu mon espoir et mes espérances, ouais, parce que ça devenait de plus en plus réel et de plus en plus tangible et palpable. Et finalement, après, il y a eu la Covid, donc j'ai eu quelques mois bonus encore. Donc, tu vois, c'est pour ça ce que je te dis quand je dis que j'ai eu la poisse de A à Z.
Ouais.
Bon, après, c'est moi qui l'ai cherché. Hein, mais...
Ouais. Non, mais clairement, il y a très peu de chance dans tout le parcours que tu décris là. Ça ressemble à quoi une journée type, en fait? Qu'est-ce que tu as fait du coup après dedans? Est-ce que tu as commencé à faire certaines activités? Est-ce que tes activités ont changé le jour où tu dis là, où tu dis ok, vas-y, maintenant, il n'y aura plus de déception? Tu faisais quoi? C'était quoi ton quotidien, du coup, en prison?
Ouais, moi, la prison, ça m'a étonnamment tout de suite fait beaucoup de bien. J'ai même flippé en arrivant, parce que je me suis dit, c'est bizarre, tu devrais être un petit peu plus bouleversé, dévasté. Mais en fait, non, le fait de retrouver ce cadre-là et de m'éloigner des soirées qui étaient mon quotidien, ça m'a permis de me dire, voilà, là, maintenant, tu te lèves le matin, tu dors le soir, tu manges à l'air fixe. Et de retrouver cette espèce de rythme, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux, ça m'a aéré l'esprit instantanément. Et après, la journée type là-bas, moi, ça a été, je me suis vite réorienté vers le sport. J'en faisais énormément quand j'étais au lycée, en début de fac aussi. Après, c'était difficilement conciliable avec les excès nocturnes. Mais petit à petit, il y a eu cette espèce de routine qui s'est installée où je me levais à 5h30, je faisais mon yoga, ensuite petit déjeuner, douche, travail à l'atelier. Je sors à 13h30, je vais au sport, je rentre, promenade, je cours en promenade, je reviens en cellule, douche, yoga encore le soir, dîner. Et après, soit j'écris mes courriers, soit je regarde un petit peu la télé, petit film et au lit à 22h30, 23h quoi.
T'avais la télé quand même du coup ?
Ouais, on a la télé en cellule. Je savais même pas non plus en arrivant.
Ok. Ouais. Donc tu peux Netflix and chill en prison.
Netflix non, mais on a Canal+.
Je rigole. Non mais ok d'accord. Ouais. Trop cool du coup, tu t'es grave ressourcé. On dirait presque une journée d'entrepreneur genre classique. Tu te lèves hyper tôt, 5h30, yoga, douche, sport, bonne bouffe. Tu parlais de l'atelier, tu faisais quoi l'atelier ?
L'atelier, j'étais contrôleuse. Donc en fait c'est des ateliers où on fait des PLV, donc les espèces de présentoirs qu'il y a pour certaines marques. Voilà, pour les présentoirs produits ou des trucs d'emballage aussi, d'échantillons. Et moi, en tant que contrôleuse, je comptais les productions des filles et je vérifiais que tout était conforme aux standards. Et voilà, j'avais quand même de la chance d'avoir ce taf-là parce que ma paye était quand même un petit peu plus conséquente que celle qui était à table, qui elle était payée à la pièce et au rendement. Donc moi, j'avais un salaire horaire fixe, ce qui me permettait d'avoir quand même... Ouais, 300-400 euros par mois.
C'était quoi le salaire heure, du coup, de ça ?
Je sais plus, c'est 2 euros et quelques, je crois.
2 euros de l'heure, ok.
Ouais, un truc du style.
Ok.
Ah non, moi, c'était 5 euros de l'heure, et elle, à peu près, du coup, en moyenne, pour les filles à table, c'était à peu près 2 euros de l'heure.
Ok. Et est-ce que ça existe un peu les clichés qu'on peut avoir ? Parce que, du coup, on se dit en prison, ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a des conflits ? Est-ce que toi, t'as vu, du coup, les trucs comme ça se produire, du coup, je sais pas, des bagarres, des règlements de compte, des trucs un peu bizarres, ou est-ce que tout le monde, justement, arrive à être dans un état d'esprit aussi sain, j'ai envie de dire, que le tien, et se mettre dans une routine avec beaucoup d'espoir de sortie et mettre toutes les chances de leur côté ?
Non, clairement. Encore une fois, voilà, quand je le dis, j'ai pas envie que ce soit mal perçu, parce que j'ai quand même passé de bons moments avec de bonnes personnes, et ça a été... enrichissant, et il y a quand même de la bienveillance en détention, mais le sentiment qui domine, ouais, c'est quand même une violence omniprésente, que ce soit de la part des surveillantes qui n'ont pas un taf facile et qui n'ont pas des caractères faciles à gérer non plus. Les détenues entre elles aussi, j'étais un petit peu choquée au début, mais je me suis dit, bon, on est quand même toutes dans la même merde, donc un petit peu de solidarité, ça serait pas mal. Mais non, il y a toujours... ouais, cette volonté de dominer l'autre un peu, et cette agressivité latente, tout le temps verbale, physique, de l'intimidation un petit peu. Mais après, encore une fois, je cherche à blâmer personne, parce qu'il y a vraiment des filles qui ont connu cette violence toute leur vie, et qui, si elles s'affirmaient pas, si elles se défendaient pas, se faisaient marcher dessus ou ne survivraient pas. Mmh. Mais c'est vrai que... avec moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré, parce que moi, c'est pas quelque chose à laquelle j'étais habituée, donc ouais. C'est...
Mais t'as subi un peu de ça, sans rentrer dans le détail, bien
ouais,
sûr.
Non, hein, mais... ouais, j'ai subi un petit peu. J'essayais toujours d'être respectueuse et polie avec les gens, mais j'ai quand même dû esquiver deux trois gifles, bon, ça.
Ah ouais, putain.
Ouais, okay. Ça arrive. Mais après, sinon, j'ai vu des bagarres assez ouf, hein. La grande majorité du temps, c'était plus verbal. Elle criait, ok, elle s'intimidait un peu, mais il y a eu quelques bastons, waouh, vraiment dangereuses, où ça s'arrache des bouts d'oreilles ou des trucs comme ça, quoi. J'étais là, okay.
Ok, bon, je vais peut-être retourner faire du yoga, moi. Hein,
c'est ça.
Ok, trop cool. J'ai encore une question, du coup, là-dessus. C'est, t'as été soutenue, du coup, pendant ces 3 ans et demi-là, par des proches, par ta famille, par des potes, par...
Ouais, ma petite sœur, ça a été vraiment mon pilier pendant toute la détention. On était quand même pas hyper proches avant. On pouvait compter l'une sur l'autre, ça c'est clair. Mais là, c'est elle qui a tout assumé, qui a tout géré, et qui a été géniale, tout simplement. Et après, j'ai eu pas mal d'amis aussi qui m'ont écrit, qui sont venus me voir... Mes parents, ma mère en tout cas, voulait venir me voir, mais c'est moi qui refusais. Parce que, bah, pareil pour ma sœur d'ailleurs, enfin, je voulais pas trop que ma famille ait à voir la case prison en fait. Parce que je pense qu'ils auraient dénoté un petit peu, et que ouais, je préférais les préserver un peu, préserver leur candeur et les garder assez éloignés de tout ça. Mais non, ils ont été là financièrement d'une part, et ils ont été là aussi sur le plan affectif, que ce soit ma famille ou mes amis, je me considère comme assez chanceuse et reconnaissante.
Trop cool. On t'a envoyé du coup des trucs, ce que tu disais tout à l'heure, que t'étais venu avec ta petite valise au début, donc on t'a refusé plein d'affaires. Est-ce que t'avais le droit du coup de recevoir, donc du courrier, ça j'imagine, mais des colis avec, je sais pas, tu dis à tes parents ou à tes potes, est-ce que tu peux m'envoyer tel fringue ou tel truc, ça t'as le droit de recevoir ?
Ouais, c'est pas des colis, mais du coup en général, bon, moi j'avais pas beaucoup de parloirs vu que mes amis venaient de Bordeaux, donc c'était une fois par mois, une fois tous les deux mois, mais c'était pas hyper régulier. Mais en revanche, j'ai eu des filles de Fleury qui avaient parloir toutes les semaines. Donc ma sœur achetait ce que je lui disais de prendre, l'envoyait au pote qui venait, et le pote me les déposait après.
Ah, trop
donc,
cool.
Ouais, ça a été génial. Et, en plus, ça fait vraiment tellement de bien de recevoir des trucs neufs ou des trucs de l'extérieur. Ça prend vraiment une importance tout autre, en fait. Moi, je sais que souvent, je me suis retrouvé avec je sais pas combien de paires de chaussures à la fin de mon incarcération, parce qu'à chaque fois que j'avais une mauvaise nouvelle d'une audience au palais, à chaque fois, je me rachetais une nouvelle paire, donc soit de footing, soit... J'ai acheté des mocassins en prison, quoi.
C'est génial, ça.
Ouais.
Et tu t'es fait des potes, du coup, là-bas aussi ?
Ouais, il y a eu des rencontres assez ouf... Parce qu'en fait, en détention, et d'autant plus chez les femmes, on croise vraiment de tout. Parce que chez les femmes, il y en a beaucoup qui sont là pour des accidents de vie ou à cause de leur conjoint aussi. Enfin, c'est moins prévu dans un plan de carrière d'un délinquant que chez les hommes, je pense. Mm-hmm. Donc, on voit... dès le départ, dès mon séjour au quartier arrivante, j'avais une fille qui avait mon âge et qui était hétéro. Il y avait une dame de 70 ans qui était là pour l'affaire des Kardashians. Il y avait des Roumaines. Et je me suis dit, ah ouais, là, on est 5. Et rien que sur 5, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, quoi. Donc ouais, non. J'ai fait plein de rencontres enrichissantes. Des personnes qui étaient à milieu aussi d'imaginer finir là comme moi. Et d'autres pour qui c'était pas la première fois, d'autres pour qui c'était pas non plus la cinquième, mais la sixième ou septième. Mais dans tous les cas, beaucoup de rencontres enrichissantes, que ce soit des gens que... Enfin, ouais, il y avait beaucoup de gens que j'aurais jamais pu croiser dans ma vie d'avant, et ça m'a fait réaliser la chance que j'avais d'être celle que j'étais et de venir d'où je venais, en fait. Donc, ouais, ça m'a fait aussi me dire que j'avais moins d'excuses que des filles comme ça pour finir en prison, que j'avais été complètement conne et...
Ouais, j'allais te demander un petit peu, c'était ma prochaine question, tu commences un peu à y répondre, c'est quoi un petit peu les conséquences, aussi bien négatives ou positives, en tout cas, que t'en ressors de tout ça, justement ?
Les conséquences, elles ont été plus positives que négatives pour moi. En tout cas, ça m'a fait ouvrir les yeux, voilà, sur plein de choses, apprendre la patience... être plus ouverte d'esprit aussi. Je pensais que je l'étais déjà avant, mais là ça, voilà, ouais, voilà, ce fait-là d'avoir appris la patience, le lâcher prise, que ouais, parfois c'est pas nous qui maîtrisons les circonstances, que parfois on a beau avoir raison, ben on a tort. La résilience, ouais, non, maintenant, franchement, voilà, là, quand je vois ce ciel bleu par la fenêtre, je suis juste trop contente. Donc ouais, ça, c'est plutôt chouette, ça m'a appris à profiter des petits plaisirs. Après, les conséquences négatives, c'est quand même que quelqu'un a perdu la vie, et que c'est de ma faute, qu'il y a toute une famille qui retrouvera pas cette fille-là, qui est décédée à cause de moi. Après, moi, j'ai quelques petits traumatismes, on va dire, genre j'ai tendance à être assez... merde, c'est quoi le mot ? Exigeante avec moi-même, on va dire. Je me pardonne difficilement, j'ai toujours peur de faire une erreur, et quand j'en fais une, j'ai tendance à être plutôt intransigeante. Mais bon, c'est des choses aussi sur lesquelles je peux travailler, des axes perfectibles. Mais ouais, non, globalement, je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui, et c'est mon passage par la case prison qui a amené ça, donc un mal pour un bien.
Ouais, bah quand on parle, clairement, on sent que t'es une belle personne, donc c'est stylé que tu puisses revenir sur ça. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe sur le petit rituel de fin. c'est peut-être un peu con sur toi ton parcours, mais bon, on sait jamais. C'est quoi un peu le conseil que tu donnerais à la Justine de l'époque? Pas juste pour éviter cette nuit, hein, bien sûr, parce que c'est trop con ce que je vais dire. Bah oui, j'aurais pas pris ça là. Mais
ouais, non.
C'est quoi, tu vois, peut-être par rapport au rythme, etc., tout ça que t'avais plutôt à l'époque, tu vois?
Non, le conseil, en tout cas, ça aurait été de s'écouter, de se faire confiance et de réagir avant, en fait. C'est ça le truc, et c'est ça qui m'embête le plus, c'est que, clairement, j'étais pas bête, je faisais des études, j'avais le soutien financier de mes parents, et je me suis sabordée toute seule, au lieu de réagir avant. Parce que je savais clairement que je m'épanouissais pas, et là, maintenant, je fais de la cuisine, peut-être que si je m'étais lancée dans la cuisine avant, j'aurais moins perdu de temps et moins cherché de stimulation là où j'aurais pas dû. Donc ouais, ça aurait été peut-être de s'écouter et de réagir. Et c'est con parce que clairement, la faute, elle m'est entièrement imputable. C'est pas... Je peux pas dire ouais, mais non, mais c'est un accident. Non, c'est moi qui ai cherché et j'aurais dû être moins bête.
Ouf, c'est ouf d'assumer autant, du coup, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est beau témoignage, vraiment totalement inédit. Et c'est génial que tu aies accepté de venir. Encore merci, Justine. Même si, pas fini. On passe aux questions pour la mention.
Questions pour la mention.
Et donc, la première question, Justine, comme d'hab, comme à tout le monde, c'est quoi pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Ouais, bon, évidemment, ça va être lié à cette petite expérience-là. Je pense qu'il y a la tolérance, la patience, et après je me tâte un peu, je sais pas, la résilience ou la bienveillance.
C'est pas mal, peut t'en mettre une bonus, mais ouais, c'est pas mal. Hein.
Ouais, non, mais c'est ça se rejoint un petit peu, mais en tout cas, ces trois ou quatre du coup, vertus-là, elles sont liées au lâcher prise et au fait de... d'accepter, en fait. Mm-hmm. Donc, finalement, ces quatre vertus-là se recoupent sous une cardinale qui est l'acceptation.
Ouais, c'est beau. Bah, très propre ce que tu dis. Survalider. Survalider tout ça. Prochaine, Justine, est-ce que tu as un livre que tu aimerais partager ou un podcast ou une série ou un film, un truc que tu as kiffé, en tout cas, que tu aimerais partager?
Ouais, j'avoue que j'ai quand même un bon gros retard en termes de séries, films et livres. Ça, c'est entièrement de ma faute. Je m'en suis un petit peu détachée. Ouais, non, livre, on va dire La Bible des saveurs.
Ok, bah oui, maintenant.
Qui permet de faire des associations culinaires.
Trop cool.
Podcast, il y a Ici ta voix, qui est un podcast pour lequel je vais bientôt cuisiner, donc plutôt funky.
Ok.
Et sinon, grand classique, Striptease, hein, niveau émission, on n'a toujours pas fait mieux pour rigoler, ouvrir les yeux, en plus profiter de l'accent belge, quoi.
Validé encore une fois, trop cool, Justine. La dernière question, c'est quoi, du coup, ton prochain objectif que tu t'es fixé?
Ben là, maintenant, je suis dans la cuisine, je me réveille tous les jours en étant la meuf la plus heureuse du monde, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'apprendre et là j'aimerais rentrer à Ferrandi pour la rentrée prochaine et clairement dominer le food game d'ici peu.
Allez là, c'est bon ça, dominer le food game, on adore. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous résumer, ça fait quoi, ça fait une petite demi-heure là, ce qu'on s'est dit en une phrase?
Une phrase, Ben, on s'est dit que parfois on peut faire les mauvais choix, hein, ça peut nous amener dans des endroits insoupçonnés et que au final, il appartient à chacun de s'en servir pour avancer.
Magnifique. Franchement, merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage, pour tout ça, Justine.
Merci à toi de m'avoir écouté.
Bah, je vais pas être le seul, ça, crois-moi bien, parce qu'une histoire comme ça, je pense que ça va faire réfléchir plus d'un. Il y a vraiment un passé ultra inspirant, encore une fois. Merci pour tout ça. On voit que tu as vraiment, vraiment beaucoup de recul sur les choses. Et ouais, un bel exemple de qui t'es avec des belles valeurs derrière que tu véhicules. Donc, change rien.
Bah toi non plus.
Et bah voilà, on change rien alors.
Parfait.
On change rien, on est parfait.
Yes.
Trop cool, merci Justine.
Merci à toi.
À bientôt, ciao ciao.
Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.